Il est 8h, vous écoutez France Culture et le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Qui pour accueillir l'Aquarius en Méditerranée alors que le navire erre en ce moment après avoir secouru 141 migrants vendredi dernier? Dans ce journal, nous irons sur le pont du bateau avec notre envoyée spéciale Maureen Mercier.
À la une de l'actualité, le statut de l'ancienne présidente argentine Cristina Kirchner.
Alors que le Sénat examine aujourd'hui la possibilité de lever son immunité parlementaire. Analyse à suivre avec Gaspard Estrada, analyste à l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Aux États-Unis, le sort d'un condamné à mort est suspendu à un recours déposé par un laboratoire pharmaceutique.
L'entreprise allemande refuse que son produit soit utilisé pour pratiquer des exécutions. Grégory Phillips nous appellera depuis Washington. Et puis une semaine après, la tribune portant l'inquiétude d'associations du monde culturel, analyse à suivre dans ce journal d'un sociologue des politiques culturelles sur le rapport entre le gouvernement et le monde de la culture. Combien de temps l'Aquarius va-t-il errer en Méditerranée avant de pouvoir accoster? Pour répondre aux impératifs humanitaires, nous sommes en discussion avec les pays concernés pour que ce bateau puisse aller rapidement au port sûr le plus proche, a réagi hier soir l'Elysée dans un communiqué après la proposition du directeur du port de Sète d'accueillir le navire. Il faudra attendre encore donc. En juin, l'Aquarius avait attendu 9 jours en mer avant de rejoindre le port espagnol de Valence. Le navire est à nouveau coincé en Méditerranée, 141 rescapés à son bord, dont une majorité de Somaliens et d'Érythréens, la plupart sont mineurs. Tous ont été sauvés vendredi alors qu'ils dérivaient sur des embarcations en bois surchargées au nord de la Libye. Reportage à bord du bateau avec notre envoyée spéciale Maureen Mercier.
141 rescapés à qui il faut expliquer pourquoi l'Aquarius est ainsi planté en pleine mer, moteur à l'arrêt.
Pour répondre à la question de où on va, la réponse, on l'a pas encore.
Cette situation, les équipes de Médecins Sans Frontières et de SOS Méditerranée s'attendaient à devoir l'affronter. Mais est-ce qu'on s'habitue à devoir expliquer à les personnes ayant fui les prisons en Libye qu'elles vont devoir patienter avant de dormir sur autre chose qu'un pont brûlant en acier? Tanguy, marin sauveteur, est à bord de l'Aquarius depuis 2 ans. Sa réponse:
dans la mesure où je me suis habitué à ramasser des cadavres, je peux bien m'habituer à attendre.
Non, évidemment.
Au moins cette fois-ci, c'est des vivants que j'ai avec moi. On les traite avec dignité, ce que nos autorités ne font pas.
Cet homme se plaint de douleur. Il y a quelques mois, des Libyens lui ont tiré une balle dans le bras. Pour la lui retirer, il faudra attendre d'être acquis.
Si le monde te rejette, viens mon bébé, je te tiens.
Cette jeune femme de Côte d'Ivoire, jamais elle n'avait pensé un jour devoir se rendre en Europe. Elle vivait en Libye avant la chute de Kadhafi. Lorsque le pays a basculé,
moi j'ai été vendue.
Prostitution forcée. Pour y échapper, elle n'avait pas d'autre choix que de traverser la Méditerranée.
Quand les Français se déplacent pour venir en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent, c'est écrit à l'aéroport Aquaba, ce qui veut dire bonne arrivée. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a des problèmes. Demain, ça peut être vous, les Européens. Ouvrez-nous les portes, nous sommes des êtres humains.
Pour se réconforter et tuer le temps, il chante. Et quoi qu'il arrive...
Vous n'allez pas retourner en Libye? On n'a pas le droit de vous ramener dans cet endroit qui est jugé non sûr. Ok, we will not go back to Libya.
Un reportage de notre envoyé spécial à bord de l'Aquarius, Maureen Mercier. L'étau se resserre un peu plus autour du navire humanitaire. Le gouvernement de Gibraltar annonce qu'il retire son pavillon au navire. L'Espagne, qui avait accueilli l'Aquarius une première fois en juin avec 630 migrants à son bord, rechigne à se proposer à nouveau. En Syrie, c'est un décompte macabre qui parvient petit à petit aux familles des personnes qui ont perdu des proches dans les prisons du régime. Des listes discrètement mises à jour. Des centaines de personnes ont récemment appris la mort d'un proche en détention. 640 selon le réseau syrien des droits de l'homme. Ils seraient morts exécutés ou sous la torture à cause de la faim ou bien de maladies. Les corps ne sont pas remis, mais les décès sont rendus publics depuis le mois de mai. À Beyrouth, Laure Stéphane a rencontré Noura Razi, la veuve d'un activiste arrêté en 2012.
Il y a un an, l'avocate Noura Razi annonçait la mort en détention de son mari Bassel Khartabil, un développeur informatique renommé engagé dans le soulèvement de 2011 contre le régime syrien. C'est à travers ses réseaux qu'elle avait appris son décès. Le mois dernier, la nouvelle a été officialisée, Noura Razi.
Mon beau-père s'est rendu au bureau de l'état civil, on lui a remis un certificat de décès et il a découvert que mon mari était mort le 5 octobre 2015.
Aucune explication n'a été donnée sur les circonstances du décès. Ces détails détails ne sont pas fournis aux familles. Depuis la disparition de son mari en prison en 2015, Noura Razi a mené sa propre enquête. Mais l'officialisation de sa mort est un nouveau traumatisme.
Je pensais que je vivais déjà avec la confirmation que mon mari avait été condamné à mort et qu'il était mort. Mais quand j'ai vu les papiers officiels, ça a été un nouveau choc. C'est comme si, au fond de moi, je continuais de l'attendre. J'espérais toujours qu'il soit vivant, mais maintenant tous les doutes ont été levés.
C'est en se rendant au bureau de l'état civil que la plupart des familles apprennent la mort en détention de leurs proches. Exilée au Liban depuis quelques mois, Noura Razi, l'une des fondatrices du mouvement Famille pour la Liberté, garde le contact avec de nombreux parents de détenus et de disparus.
La plupart des familles étaient sans nouvelles de leurs proches, ou en avaient eu il y a longtemps. Peut-être que beaucoup d'entre elles s'attendaient à apprendre que leurs proches avaient été tués, mais cela reste un choc immense. Maintenant, nous avons besoin de preuves, nous avons besoin de vivre pleinement le deuil, de voir les corps et de pouvoir les enterrer.
Certaines familles organisaient des cérémonies de deuil en Syrie dans la plus grande discrétion, de peur de représailles. Selon les militants des droits de l'homme, si ces décès sont rendus publics aujourd'hui, c'est avant tout parce que le régime se sent victorieux et ne craint aucune poursuite.
Laure Stéphane, correspondante de France Culture à Beyrouth. Une exposition de photos prise par le journaliste américain Austin Tice doit ouvrir aujourd'hui à Washington, 6 ans jour pour jour après son enlèvement en Syrie. Au Mali, l'opposition appelle à se lever contre la dictature de la fraude, selon les mots du candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé. Il rejette par avance les résultats du second tour de l'élection présidentielle de dimanche, un duel avec le président sortant et favori, Ibrahim Boubacar Keïta. La Cour constitutionnelle malienne doit annoncer officiellement les résultats en début de semaine. Alors qu'au Yémen, des milliers d'habitants sont descendus hier dans la rue, criant des slogans anti-Arabie Saoudite et anti-États-Unis, après la mort de 29 enfants dans des frappes aériennes attribuées à Riyad. L'enterrement avait lieu hier.
Aux États-Unis, Sophie Delpont, la vie d'un condamné à mort est suspendue aujourd'hui au recours d'un laboratoire pharmaceutique.
Khareddin Moore, un homme de 60 ans, doit être exécuté aujourd'hui dans le Nebraska pour le meurtre de 2 chauffeurs de taxi à la fin des années 70. Mais l'entreprise allemande qui produit la substance mortelle refuse qu'on utilise ses produits pour pratiquer des exécutions. Elle a lancé une procédure judiciaire. À Washington, Grégory Phillips.
Le laboratoire Fresenius Kabi, qui a son siège dans le centre de l'Allemagne, a donc déposé ce recours il y a une semaine pour empêcher la mise à mort de cet homme par injection létale. Le fabricant pense que 2 des produits mortels censés être utilisés proviennent de ses usines et qu'ils ont été achetés illégalement par les autorités du Nebraska. Or, le laboratoire ne veut pas que son image soit associée à la peine de mort. Le juge fédéral qui a été saisi ne dispose plus que de quelques heures pour rendre sa décision. Mais cette affaire illustre encore une fois la difficulté que la trentaine d'États américains qui applique encore la peine capitale, rencontre pour se procurer des cocktails mortels. Depuis presque 10 ans, les laboratoires pharmaceutiques, européens comme américains, refusent d'approvisionner le système carcéral. Et face à cette pénurie, certains États inventent des solutions alternatives. Le Tennessee a réintroduit la chaise électrique. L'Utah a voté pour le rétablissement des pelotons d'exécution. Et en Oklahoma, les autorités locales ont opté pour une autre méthode, l'inhalation forcée d'azote, habituellement réservé à l'abattage des animaux.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. En Argentine, la parole au Sénat dans l'affaire de corruption touchant l'ancienne présidente Cristina Kirchner. Les sénateurs examinent aujourd'hui la demande de perquisition du juge chez l'ancienne présidente accusée de corruption. Elle est aujourd'hui sénatrice et c'est la question de son immunité qui est en jeu. C'est une décision difficile pour ses alliés. Ils n'ont pas tous la même position, comme l'explique Nadine Epstein, Gaspar Estrada, analyste à l'Observatoire politique de l'Amérique latine des Caraïbes.
Il y a aujourd'hui en effet un scandale politique majeur en Argentine concernant non seulement la question du financement illégal des campagnes électorales, qui est une chose, mais la corruption directe d'hommes politiques qui est grave de la même manière que le financement illégal des campagnes électorales. Mais là, on arrive à un degré supérieur et cela fait l'objet d'un débat au sein du Parlement, et ce seront eux, in fine, qui décideront s'ils lèvent l'immunité parlementaire de Mme Kirchner.
Est-ce qu'ils vont voter dans la foulée du débat aujourd'hui ?
La véritable question tout sur la volonté des parlementaires péronistes, donc le mouvement que fait partie Mme Kirchner, mais qui sont très critiques de l'ancienne présidente argentine. À vrai dire, le mouvement péroniste est actuellement très divisé. L'année prochaine, il y aura des élections présidentielles en Argentine. Aujourd'hui, le gouvernement traverse une forte crise de popularité, d'où la volonté des péronistes de reprendre le poil de la bête. Et justement, la personne qui pouvait incarner justement cette opposition à M. Macri était aujourd'hui l'ancienne présidente argentine. Toute la question est de savoir si les péronistes voudront préserver leur ancienne championne ou si ils préféreront lui lever l'immunité pour se trouver un nouveau leader au sein de leur camp.
Gaspard Estrada répondait à Nadine Epstein. Vous revenez, Sophie Delpont, sur la condamnation de Monsanto dans l'affaire du glyphosate. Elle provoque la chute en bourse du géant allemand Bayer. Moins 14% hier, alors qu'il venait tout juste de racheter l'entreprise américaine fabricante du pesticide Roundup, reconnue coupable vendredi de la maladie d'un ancien jardinier. L'entreprise a été condamnée à verser 250 millions d'euros à un ancien jardinier, donc atteint d'un cancer. Mais pour l'avocate et ex-ministre de l'Environnement, il n'est pas encore temps de crier victoire. Corinne Lepage déclare qu'il serait possible que le géant allemand Bayer ait pu anticiper cette situation. Elle ne serait pas surprise que Monsanto aurait, avec la complicité du groupe pharmaceutique allemand, organisé une insolvabilité.
Notre inquiétude est la suivante, très facile à comprendre. Monsanto a été acheté extrêmement cher par Bayer, beaucoup plus cher que ça ne valait. Et la question que nous nous posons est celle de savoir si, en réalité, Bayer n'a pas acheté l'actif de Monsanto et le passif de Monsanto et notamment tous les procès en cours et à venir seraient restés logés chez Monsanto dans une société destinée à disparaître à terme. Il y a eu un cas d'une filiale de Monsanto en Allemagne où les choses se sont à peu près passées comme ça. Donc c'est vraiment une inquiétude que nous avons et on va voir dans les jours qui viennent comment les choses se passent.
C'est le cynisme absolu, mais ça pourrait se produire.
C'est pas du tout impossible et je dirais que ça m'étonnerait même pas. Hein, parce que très franchement, pour faire ce qui a été fait par Monsanto, vraiment, il faut une sacrée dose de cynisme. Vendre des produits dont on sait depuis 30 ans qu'ils posent des problèmes en dissimulant, vous me direz, les fabricants d'amiante et les cigarettiers ont fait la même chose. Mais enfin, c'est pas une raison.
Corinne Lepage répondait à Véronique Rebérotte. Des tensions entre des artistes, des associations et la politique culturelle menée par Emmanuel Macron. Une semaine après la tribune signée par des artistes et directeurs de centres nationaux dans le journal Le Monde, dénonçant une politique présidentielle qui affaiblirait délibérément le ministère de la Culture, nous avons réalisé un entretien avec le sociologue spécialiste des politiques culturelles, Quentin Fondu. Il nous explique sur quoi repose le paradoxe d'Emmanuel Macron, seul candidat à avoir mis en avant la culture dans son programme pendant sa campagne, sans convaincre complètement aujourd'hui.
C'est effectivement l'un des seuls candidats à parler de ces questions-là, mais donc au détriment de tous les autres. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait plus mettre en avant que sur le projet culturel qui serait celui d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas de cette manière-là que j'analyse les choses. Et d'autre part, il faut aussi pouvoir, à mon avis, aller au-delà des formules. Il faut aussi pouvoir appliquer l'herméneutique dont se targue Emmanuel Macron à la suite de Ricoeur et d'essayer d'étudier ce qu'il dit quand il dit les choses. Et je suis pas sûr que sur ce projet culturel, en fait, il y ait grand-chose à part ce changement de paradigme qui renvoie en fait à une intromission des logiques de marché et des logiques marchandes au sein des politiques, enfin au sein de la culture, alors même que le ministère des Affaires culturelles, les politiques culturelles se sont construites contre ça. Le ministère de la Culture, quand même, s'est organisé dès l'origine autour des créateurs et autour d'un certain nombre d'intellectuels spécialistes du théâtre, comme Robert Abirachet, Bernard Dort également, qui a été un grand monsieur du théâtre, un enseignant en études théâtrales, mais également un grand critique théâtral, et des hommes de théâtre, et notamment les metteurs en scène. Et que ça, c'est aussi une forme de remise en cause du pouvoir qui avait été obtenu par ces créateurs et par ces intellectuels, au profit de ces chargés de mission qui sont quand même bien souvent, en tout cas qu'on pourrait considérer bien souvent comme des technocrates qui n'ont pas la culture de la culture quelque part telle qu'elle s'incarnait auparavant.
Quentin Fondu, sociologue des politiques culturelles, répondait à Anne Fauquemberg. Un entretien à retrouver sur notre site internet franceculture.fr.
Et nous aussi, Sophie Delpont, on y reviendra tout à l'heure. À 8h35, nous recevrons l'acteur et metteur en scène Robin Rinucci qui est à l'origine de cette tribune parue dans Le Monde la semaine dernière.
Aretha Franklin, dans un état très grave selon ses proches, elle serait en ce moment en soins palliatifs. L'interprète de grands succès comme Respect et I Say a Little Prayer est âgée de 76 ans. Les fans ont afflué devant l'hôpital à Détroit. Le soleil devrait s'imposer entre deux passages nuageux sur l'ensemble du pays. De la grisaille en revanche sur le Finistère, quelques averses sur la Corse. Autour du golfe du Lion, le Mistral et la Tramontane devraient dégager le ciel. Du côté des températures, 20 à 22 degrés ce matin le long de la Manche, 23 à 27 degrés en majorité ailleurs. Comptez jusqu'à 31 degrés sur le sud-est et la Corse cet après-midi.
Merci Sophie Delpont, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h.